Chapitre 19. Dès que les trois hommes furent assez loin, Tilly se pencha vers Magda.
« Des sorciers ?»
souffla-t-elle avant de se remettre en chemin. Magda s'en était doutée à la tenue des trois types, et elle en avait la certitude en croisant leurs regards. Bien que dépourvue du don, elle était capable de reconnaître l'étincelle de la magie dans les yeux de tous ses pratiquants. Une forme d'intuition avait-elle toujours cru ? Mais c'était plus que ça, selon Baracus. Même si elle ne contrôlait pas la magie, sa jeune épouse, à l'en croire, avait un pouvoir latent qui la distinguait des authentiques profanes. L'étincelle de la vie, affirmait-il, était bien plus forte chez elle que chez la plupart des gens. Dans ses yeux, il lisait de l'intelligence, de la détermination et ce qu'il nommait de la rareté. De temps en temps, sondant son regard, il s'étonnait à voix haute qu'elle soit si ensorcelante. À ces moments-là, parlant d'elle comme si elle n'était pas là, il se comportait comme s'il étudiait un spécimen d'humanité exceptionnel et précieux. Magda ne se serait jamais qualifiée ainsi, mais elle se réjouissait d'inspirer de telles pensées à un homme comme Baracus. Elle se souvenait parfaitement de la première fois qu'elle avait croisé le regard du premier sorcier. Décontenancée par tant de douceur et de sagesse, elle en était restée un moment muette. En même temps, elle s'était sentie plus en sécurité que jamais. Bien entendu, elle savait à qui elle avait affaire, mais elle avait aussi vu en Baracus un homme plus âgé qu'elle qui l'attirait irrésistiblement. Qui pouvait dire comment naissait l'amour? En plus d'avoir identifié le don dans le regard des trois hommes, Magda aurait juré qu'elle connaissait les deux premiers. Leur nom lui échappait, mais elle les avait déjà vus, ça ne faisait aucun doute. Ayant très souvent accompagné Baracus lorsqu'il rendait visite à ses sorciers dans les sous-sols, elle avait dû rencontrer ces deux-là à une de ces occasions, car elle ne se souvenait pas de les avoir reçus dans ses appartements. Quant à Mérite, c'était un nom que Baracus avait dû prononcer au détour d'une conversation. Rencontrant sans cesse des pratiquants de la magie, il ne prenait pas toujours la peine de leur présenter sa femme. Avec le temps, Magda avait appris à repérer les occasions où il préférait qu'elle reste dans l'ombre, voire qu'elle se retire. Par exemple, quand on venait lui parler de sujets confidentiels ou lui rapporter des troubles quelconques. Parfois, après le départ de tel visiteur, il restait un long moment à la fenêtre, admirant en silence Aydindril et ses merveilleux palais. À d'autres occasions, une fois seul avec sa femme, il lui révélait leurs noms et les motifs de leur visite. Plus rarement, il lui parlait de gens qu'il venait de rencontrer au fin fond des sous-sols de la forteresse. Mérite. Ce nom lui était familier, même si elle ne parvenait pas à l'associer à un visage. Sans doute parce qu'elle n'avait jamais vu ce sorcier, en entendant simplement parler par son mari. Si elle avait pu, Magda ne serait pas retournée dans les sous-sols. Déjà peu engageant en temps normaux, ces lieux lui fichaient désormais une trouille phénoménale et les mises en garde de Tilly ne faisaient rien pour la rassurer. Mais elle devait continuer son enquête quelque part et les catacombes semblaient une très bonne idée. Après le départ du seigneur Rall, elle avait passé des semaines à suivre toutes les pistes possibles, sans résultat. Interrogeant tous les sorciers et toutes les magiciennes de sa connaissance, elle avait récolté beaucoup de compatissantes sympathies, mais pas l'ombre d'une information susceptible de la mettre sur la bonne voie. Baracus, sa femme était bien placée pour le savoir, ne confiait pas grand-chose aux gens, y compris les pratiquants de la magie, à part les informations dont ils avaient vitalement besoin. Ses interrogatoires avaient confirmé cette tendance. Les sorciers et les magiciennes ne connaissaient que des bribes de vérité. À sa grande surprise, Magda avait découvert qu'elle en savait plus long sur Baracus et sur ses activités que ses plus proches collaborateurs. Grâce à son mari, elle avait développé une vision plus large de la guerre, des alliances complexes et des forces souterraines que la moyenne des sorciers. En revanche, ceux-ci connaissaient sans doute plus de détails précis qu'elle. Alors qu'il se focalisait sur des segments, certes importants, elle avait une vue d'ensemble des responsabilités du premier sorcier et de sa stratégie. En d'autres termes, elle savait comment s'interconnectaient les pièces du puzzle, même si elle n'aurait pas su les décrire avec précision. L'allié le plus sûr de Baracus, Alric Rall, ne faisait pas exception à la règle. Même si le premier sorcier lui confiait des missions essentielles, il ne lui révélait pas tout de ses plans. Très informé dans le détail au sujet de ceux qui marchent dans les rêves, le seigneur avait une vision globale du problème inférieure à celle de Magda. Par nature, Barakus était un homme secret qui ne se répandait pas sur ses activités ni sur les motivations de ses choix. Garder tout ça pour lui, disait-il souvent, était une exigence s'il entendait survivre. Plus au courant que quiconque, Magda était loin de tout savoir sur ce que faisait et projetait son mari. Et elle ignorait toujours pourquoi il s'était donné la mort. Parmi les personnes qu'elle avait interrogées, beaucoup s'étaient montrés plus intéressés par une conversation avec elle que par l'évocation de Barakus. Ces sorciers et ces magiciennes voulaient en savoir plus sur la nouvelle arme de l'ennemi et ils se posaient une multitude de questions sur des événements dont ils avaient seulement entendu parler. Ce fameux jour, devant le conseil, Magda était-elle vraiment couverte de sang? Avait-elle pour de bon conseillé que tout un chacun récite des dévotions adressées au Seigneur Hal? Inlassablement, Magda répétait que tout était vrai et recommandait à ses interlocuteurs de jurer allégeance à Alric Rall. L'ayant écoutée avec une grande ouverture d'esprit, certains la remerciaient de ses propos, d'autres décrétaient qu'il ne s'allierait jamais au maître de Dara. Parmi ces pratiquants de la magie, certains avaient depuis prêté serment au seigneur Daran. Après le départ d'Alric Rall, Magda avait craint que le lien ne fonctionne pas en son absence. Non sans surprise, elle s'était avisée qu'elle sentait le seigneur à travers cette connexion magique. Si étrange que ça parût, elle était capable de dire où il se trouvait, la direction générale en tout cas, et à quelle distance. Par ce biais, elle savait qu'elle était toujours hors de portée de ceux qui marchent dans les rêves. Alors que l'été touchait à sa fin, la mort de Barakus restant aussi mystérieuse et aussi obsédante pour elle, Magda s'était résignée à écouter le conseil pourtant discutable de Tilly. C'était la dernière chose qu'elle pouvait essayer. Même si cette perspective ne lui plaisait pas, surtout depuis que les sous-sols de la forteresse étaient devenus des coupes-gorges, elle devait tenter un coup de force pour sortir de l'impasse où elle croupissait. De plus, si elle n'agissait pas, un agent ennemi risquait de prendre le contrôle de la vieille femme, la privant d'une précieuse alliée. Malgré ses réticences et ses craintes, Tilly comprenait l'entêtement de Magda, résolue à découvrir pourquoi Barakus s'était donné la mort. Consulter une spirite, selon la vieille domestique, pourrait au minimum apaiser le cœur de sa maîtresse. Mais celle-ci voulait bien plus que du baume sur son chagrin, elle était en quête de réponse. Le long tunnel finit par déboucher dans une vaste salle qui évoquait une large blessure dans le flanc de la montagne. Pas plus large que les couloirs de la forteresse où les marchands ambulants installaient régulièrement leurs étals, la caverne était en revanche haute de plusieurs centaines de pieds, sa voûte presque invisible dans la pénombre. En longueur, l'étrange lieu n'était pas ridicule non plus. Depuis l'entrée, on ne distinguait pas les traits des gens qui se tenaient à l'autre extrémité, et parfois, on avait même du mal à distinguer les hommes des femmes. En plissant les yeux, Magda parvint cependant à différencier les différentes nuances de tuniques et de robes, des indices essentiels sur le rang et les fonctions d'une personne. Bizarrement, la jeune femme fut soulagée de revoir des gens. Même quand le danger rôdait, on était toujours mieux entouré d'êtres humains que seuls dans des tunnels obscurs. Surtout quand des cris y retentissaient, des hommes mourant pour un oui ou un non. À bonne hauteur, sur un des murs, des sortes de meurtrières laissaient apercevoir le ciel nocturne. Autour de ces ouvertures, des chauves-souris chassaient infatigablement des insectes. Assis sur son séant, un des jeunes chats de la forteresse suivait des yeux le balai des chauves-souris. À l'évidence affamé, il faisait peine à voir. Pleine de compassion, Magda sortit de sa sacoche de ceinture un petit paquet de blanc de poulet émincé. En prélevant un morceau, elle le lança au malheureux félin. Tant qu'elle y était, elle entendit un autre à Tilly et en prit un troisième pour elle. Puis, elle referma le paquet et le remit en place. Alors que les deux femmes s'éloignaient en grignotant la viande, le chat dévora en deux coups de dent sa prise inattendue. Magda était déjà venue plusieurs fois dans l'énorme salle, mais par un chemin plus agréable. Suite à ses précédentes visites, elle savait que l'endroit était en réalité un moyeu donnant accès à presque toutes les zones importantes du complexe. La première fois, Barakus lui avait expliqué que les meurtrières permettaient à l'étrange lieu de faire aussi fonction de cheminée d'aération, en d'autres termes d'assurer le renouvellement de l'air dans les sous-sols. Ces ouvertures servaient aussi d'accès aux oiseaux qu'on retrouvait fréquemment dans les couloirs des niveaux supérieurs. Parfois, il arrivait que des merles parviennent jusque dans les salles à manger, où on les voyait sauter un peu partout à la recherche de miettes, quand ils ne volaient pas directement de la nourriture dans les assiettes des convives. Levant les yeux, Magda vit que des moineaux se perchaient sur des poutrelles dans les hauteurs de la voûte. Sur une grosse poutre, elle distingua même un corbeau qui suivait des yeux les allées et venues des gens au niveau du sol. Comme il faisait plus chaud dehors qu'à l'intérieur en ce moment, les orifices de ventilation agissaient à l'envers, laissant entrer dans la salle un air d'une étouffante moiteur. Dans cette étuve, la fumée des forges et des cuisines ambulantes n'arrangeait bien entendu rien. Des marches creusées dans la roche, sur le mur de droite, conduisaient à une série de balcons étroits, parfois dotés d'alcôves. Certaines de ces niches, munies de portes, étaient à usage privé. Les autres servaient tout simplement d'aire de détente. Dans la salle, la plupart des gens semblaient pressés, mais c'était un spectacle commun dans la forteresse. Considérant la taille du complexe, il n'était pas rare qu'il faille des heures pour passer d'un secteur à un autre. Toute tendance à traîner, par exemple, pour bavarder avec une connaissance, allongeait démesurément la moindre petite course qui prenait du coup la plus grande partie de la journée. C'était sans doute pour ça que Tilly préférait les tunnels obscurs. Voyant que Magda regardait les chariots débordant de bandages ensanglantés garés au hasard le long d'un mur, la vieille femme se pencha vers sa compagne et murmura « Avec le genre de choses qu'on fait ici, les erreurs pardonnent rarement. Le plus souvent, elles sont même mortelles. » Magda n'eut pas besoin de demander des précisions à la vieille domestique. Quand elle accompagnait Baracus, c'était toujours parce qu'il voulait s'entretenir avec les sorciers chargés de produire des armes censées assurer la victoire du nouveau monde, ou du moins lui épargner la défaite. Les deux femmes venaient d'entrer dans le secteur des sous-sols où on fabriquait les armes en question à partir d'êtres humains. Bien sûr, il le fallait pour ne pas perdre la guerre. Malgré tout, l'idée qu'on modifie une personne avec l'aide de la magie continuait à révulser Magda. Au bout du compte, les cobayes n'avaient souvent plus rien d'humain. De telles pratiques, de son point de vue, étaient tout simplement criminelles.